19h sur France Inter. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous. Le centre-ville de Lyon, bouclé et évacué ce soir. Une explosion il y a moins d'une heure et demie, à deux pas de la place Bellecour. Il y a au moins 7 blessés, vraisemblablement victimes d'un colis piégé. Un homme est recherché. Les détails dès le début du journal. Les dernières heures de la campagne des européennes, le Rassemblement National drague à tout va, Insoumis et LR notamment. La République En Marche est rassemblée à la Mutualité. Les partis de gauche marchent pour le climat. On vote aussi aujourd'hui en Irlande et en République tchèque. Au sommaire également ce soir, Theresa May qui acte son départ dans 2 semaines. Ses successeurs veulent un Brexit plus dur. Nous sommes à Londres. Raphaël Nadal, déjà prêt pour une 12e victoire à Roland-Garros. Et puis Elia Souleymane en compétition à Cannes. Une explosion a donc eu lieu peu après 17h30 dans le centre de Lyon. Une attaque, vient de dire le président de la République Emmanuel Macron. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Il y a au moins 7 blessés légers et c'est un colis piégé qui aurait explosé.
Oui, un engin explosif qui contenait des clous. Il s'agit en fait d'un sac qui a été déposé par un homme aux environs de 17h dans la rue Victor Hugo, rue piétonne située tout près de la place Bellecour. Cet homme est arrivé vêtu d'un pull noir, d'un Bermuda clair, il portait des lunettes noires. Il a donc déposé ce sac devant la boutique La Brioche Dorée. À 17h, le sac déposé a explosé à 17h30 environ devant cette boutique située au 15 de la rue Victor Hugo. Une explosion qui a fait 10 blessés selon une source proche de l'enquête jointe par France Inter. 10 blessés pour lesquels le pronostic vital n'est pas engagé. Parmi ces blessés figure un enfant. En tout cas, certaines de ces personnes ont été immédiatement secourues par Jean-Philippe Vera. Il tient la pharmacie juste en face du lieu de l'explosion.
On a entendu une violente, enfin très violente explosion. La devanture de la brioche dorée avait sauté en éclats. Et tout de suite après, on a eu 5-6 personnes qui sont venues à la pharmacie avec des blessures légères. Il y avait un impact ou deux impacts par blessé, hein, pas davantage. Des petits impacts au niveau des membres inférieurs. Et apparemment, ils ont été causés par 2 petites vis de 1 cm de long. Et une toute petite bille de 2 mm de diamètre.
Et les commerçants ont été priés évidemment de fermer boutique. Peu après 18h, la police est déployée en nombre. Dans le quartier, la rue est totalement bouclée. Une rue dans laquelle se déroulent des travaux. Actuellement, des palissades sont installées. Il y a eu évidemment un mouvement de foule au moment de l'explosion dans cette rue rendue plus étroite par ces travaux. Le procureur de la République de Lyon et le préfet se sont rendus sur les lieux. Le parquet de Lyon qui a ouvert une enquête criminelle mais qui, pour l'instant, ne privilégie pas la piste terroriste.
On rappelle le bilan de cette explosion vers 17h30 dans le centre de Lyon. 10 de blessés, donc, et un homme recherché. Merci Rémi Brancato. Vous restez en studio jusqu'à la fin de cette édition si d'autres informations nous arrivent.
Un colis piégé à Lyon qui intervient évidemment dans un contexte bien particulier, Sébastien, alors que la campagne pour les européennes de dimanche se termine ce soir à minuit.
Et que chaque camp y va de son meeting. Dernier rendez-vous ce soir sur les terres de Marine Le Pen pour le Rassemblement National et Beaumont, où vous êtes, Simon Le Baron, avec en bonus le tout récent transfuge de la France Insoumise, Andrea Cotarac, et un appel très clair, Simon, aux partis concurrents.
C'est la tête de liste Jordan Bardella qui s'en charge, en commençant par les électeurs de Debout la France.
J'en appelle tout d'abord aux électeurs de Nicolas Dupont-Aignan. Je viens lui dire que nous partageons l'essentiel, que les idées, les valeurs et le projet que nous défendons n'ont jamais été aussi proches.
Viennent ensuite ceux des Républicains.
On appelle aux électeurs de François-Xavier Bellamy. Je profite de l'occasion pour saluer la campagne et les qualités personnelles.
Et enfin, les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon.
J'en appelle également aux électeurs de la France Insoumise, qui ont constaté la dérive totale du mouvement de Jean-Luc Mélenchon tombé entre les griffes des défenseurs de l'islamisme et de l'indigénisme, promoteurs d'une immigration illimitée et sans la moindre régulation.
Andrea Cotarac, conseiller régional passé il y a 10 jours des Insoumis au RN, et d'ailleurs de ce dernier meeting. Le parti de Marine Le Pen tente donc de ratisser large, très large, jusqu'aux gilets jaunes.
Qu'ils prennent conscience qu'une victoire d'Emmanuel Macron leur ferait tout perdre, y compris la dignité retrouvée dans l'action et la fraternité des ronds-points.
En jouant plus que jamais la carte anti-Macron.
Ce sera le moment de lancer un message à Emmanuel Macron qui fait semblant de ne pas entendre les cris de souffrance et de désespoir d'un peuple. Il ne doit pas sortir premier dimanche soir.
On en oublierait presque ce que se disputent réellement Marine Le Pen et Emmanuel Macron, à savoir le troisième groupe du Parlement européen. À Hénin-Beaumont, Yves Lehorse, Simon Le Baron, France Inter.
Alors le Rassemblement national qui appelle les électeurs, notamment des Républicains, au vote utile, qu'en dit-on chez les intéressés ? Eh bien qu'on n'a rien à voir avec eux. Voici le directeur de campagne de LR, Geoffroy Didier.
La stratégie de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, elle est mortifère, elle est cynique et elle est complice de celle d'Emmanuel Macron. Le problème, c'est que les électeurs des Républicains n'ont aucune envie de se tourner vers Marine Le Pen parce que nous ne disons pas la même chose. Nous démontrons, nous, que nous pouvons être patriotes sans être fachos. Et que Marine Le Pen, elle, est en fait dans une déconstruction de l'Europe et au fond, on sait pertinemment qu'elle ne veut pas l'euro. Pourquoi ? Parce que la quasi-intégralité de son programme est basée sur la sortie de l'euro et parce qu'elle-même affirme vouloir retrouver la souveraineté monétaire. Ça veut dire revenir au franc. Ça veut dire concrètement ruiner l'épargne des ménages, ruiner le pouvoir d'achat des retraités et faire exploser la dette nationale. Ça n'a rien à voir avec la liste d'Union de la droite et du centre qui démontre que l'on peut être à la fois patriote et pro-européen.
François-Xavier Bellamy était ce midi avec le patron des Républicains Laurent Wauquiez à Saint-Cyprien près de Perpignan. Il tient ce soir une ultime réunion en plein air, avenue de Breteuil, dans le chic 7e arrondissement parisien. La liste de la majorité est à la Mutualité, également à Paris. Nathalie Loiseau, entourée d'Édouard Philippe et de François Bayrou notamment, avec en projection spéciale le dernier entretien du premier soutien de Renaissance, Emmanuel Macron. C'est avec Hugo Travers, 22 ans, sur sa chaîne YouTube, Hugo Décrypte, le chef de l'État qui s'adresse aux plus jeunes électeurs.
On peut pas dire c'est compliqué, il y a beaucoup de candidats. S'il y a beaucoup de candidats, c'est qu'il y a une vraie offre démocratique. S'il y avait que deux candidats, les gens diraient je ne retrouve pas les choses. Donc c'est à chacun d'aller faire la démarche. Alors il y a eu des débats, il y a eu des articles de presse, chacun a essayé d'expliquer son programme. Mais d'abord vous recevez comme tout électeur les professions de foi. Donc vous avez les éléments principaux.
Toutes les listes, parce que certaines listes n'ont pas les moyens.
Mais quasiment de toutes les listes. Vous avez la possibilité en vous renseignant sur Internet. Et donc franchement. Dire c'est compliqué, on n'a pas été assez bien informé, le citoyen n'est pas passif. Le citoyen, il doit aller lui-même comprendre, rentrer dans des débats, est-ce que ceci est vrai, est-ce que ceci est faux. Moi je suis prêt à répondre à toutes les questions précises, mais on est dans une démocratie, on a en effet beaucoup d'offres, il y a une trentaine de listes, ce qui est une richesse, et on a la possibilité d'avoir accès à toute l'information qu'elle donne. Donc franchement, ça c'est pas une bonne raison pour le faire, au contraire. Moi j'entends souvent l'argument qui consiste à dire l'Europe est pas assez démocratique, c'est nous qui la ferons démocratique. Hein.
Dernier déplacement aussi à gauche et une dernière couche de vert surtout, PS, PC, Europe Écologie, France Insoumise, bonsoir Célia Quiré.
Bonsoir Sébastien.
Tous avaient envoyé des représentants à la marche pour le climat des jeunes cet après-midi à Paris.
Oui, et certains candidats pour être bien visibles ont osé l'originalité. Karima Deli pour la liste Europe Écologie Les Verts est arrivée place de l'Opéra déguisée en abeille avec un ours blanc à ses côtés.
Il faut savoir que lorsque les abeilles disparaissent, l'humanité risque de disparaître. Ma voisine est un ours blanc, parce que si une terre qui fond, c'est une terre foutue. Il faut vraiment qu'on se mobilise pour faire en sorte que justement l'urgence climatique ce soit la grande priorité. Il nous reste 10 ans, tout le monde nous le dit, c'est maintenant qu'il faut changer de trajectoire.
Quant aux insoumis, ils étaient clairement en campagne. Jean-Luc Mélenchon et Manon Aubry en tête de cortège, même si la candidate s'en défend.
Mais vous savez, on n'est pas là ici pour aller récolter des voix, on est là pour adresser un message à ceux qui nous gouvernent. On n'a plus le temps d'attendre, on a 12 ans pour prendre à bras-le-corps la catastrophe climatique. Et en l'occurrence, ça commence dès dimanche avec les élections européennes pour envoyer un message très clair, mais aussi avoir au Parlement européen des parlementaires qui ne voteront pas les traités de libre-échange et qui décideront un autre avenir pour nos enfants et cette jeunesse-là qui est dans la rue.
Plus discret, Benoît Hamon était là aussi, tandis que le PS était presque invisible. On pouvait apercevoir l'activiste Claire Nouvian, mais pas Raphaël Glucksmann. Et puis, personne des Républicains, du Rassemblement National ou de La République En Marche. Yann Brossat, candidat communiste, envoie une petite pique.
Je pense qu'il faut juger les uns et les autres, non pas seulement sur leur programme, mais sur leurs actes, surtout quand ils gouvernent. On n'a pas été éblouis depuis 2 ans par l'engagement environnemental du président de la République. Si Nicolas Hulot a claqué la porte du gouvernement avec fracas, ça n'est pas par hasard. C'est parce qu'il a constaté de lui-même que ce gouvernement était à la solde des lobbies.
La campagne s'est donc jouée dans la rue, mais pas sûr que cette marche, relativement peu suivie, parvienne à convaincre les jeunes de voter massivement dimanche.
14 800 personnes comptabilisées par le cabinet Occurrence à cette marche des jeunes à Paris pour l'action climatique. Merci Célia Quiré. Avec ce genre de pancarte, désolé maman, je sais comme la planète. Des manifestations également à Strasbourg, à Montpellier ou encore à Tours, ainsi que chez nos voisins, notamment en Suède et dans plusieurs villes d'Allemagne. Vous trouverez en détail sur le site d'Inter le dernier sondage Ipsos Soprasteria pour Radio Radio France et France Télévisions qui dessinent une participation en légère hausse par rapport au début de la semaine. Sur franceinter.fr aussi une explication. Pourquoi y a-t-il 34 listes et pas forcément 34 bulletins à disposition dans tous les bureaux de vote? Parce que toutes ces listes, Julie Pietri, n'ont pas les moyens de les imprimer.
D'après notre imprimeur, ça nous coûterait 270 000 euros de fournir tous les bureaux de vote et nous ne sommes pas en capacité de le faire. Le parti pirate demande donc sur son site internet à ses électeurs d'imprimer un bulletin chez eux avant de venir voter, le bulletin étant téléchargeable. Même chose pour le parti animaliste ou Alliance Jaune et bien d'autres listes. Certains de ces bulletins demandent d'ailleurs un petit peu de temps de recherche. Si vous voulez voter pour l'une de ces petites listes, il y a quelques règles à suivre. Le format d'impression A4, le grammage 70 grammes au mètre carré et la bonne référence, en une seule couleur ou en noir et blanc, précise le ministère de l'Intérieur. Il ne faut rien modifier, bien sûr, ne rien inscrire sur le bulletin. Les bureaux de vote sont censés recevoir un bulletin modèle pour vérifier que tout est conforme lors du dépouillement.
Évidemment, en vue de Bruxelles, le scrutin ne se résume pas à un duel Le Pen-Macron. Il n'empêche, bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Les résultats français seront évidemment observés de près chez vous aussi.
Et oui, et d'abord du côté des leaders pro-européens qui, avant la crise des Gilets jaunes, avaient émis l'espoir qu'Emmanuel Macron serait un moteur puissant pour relancer le projet européen. Avec cette crise, le président français a perdu de son influence. On l'a vu isolé comme rarement lors du dernier sommet sur le Brexit. Mais si La République En Marche arrivait devant le Rassemblement National dimanche, le chef de l'État reprendrait sans doute des couleurs ici à Bruxelles. Dans le cas contraire, eh bien, cela lèvera un nouveau doute sur sa capacité à mener des réformes, confie une source européenne. L'autre point clé sera aussi la capacité de sa liste. La REM a rassemblé les forces centristes et a pesé sur les futures nominations à la tête des institutions. Les tractations vont toujours bon train et vont s'accélérer dès lundi en fonction du résultat des élections.
Et du côté de Marine Le Pen, Angélique, il faudra aussi compter sur les autres groupes eurosceptiques pour peser.
En fait, d'effet, car elle ne fera rien seule. Certes, elle joue un rôle de battleur au sein de cette galaxie nationaliste européenne. Mais contrairement, par exemple, à l'italien Salvini, elle n'a jamais dirigé ou co-dirigé un pays. Sa capacité à réformer l'union de l'intérieur ou à la détruire, selon ses détracteurs, sera liée à la faculté qu'auront les eurosceptiques à se regrouper ou à agir ensemble. Or, ils ont des positions identiques, par exemple, sur la politique migratoire, mais divergent fortement sur le protectionnisme ou encore les rapports avec les Russes.
Angélique Bouin, en direct de Bruxelles. On rappelle aussi que les Irlandais votent aujourd'hui, premier des deux jours de vote aussi en République tchèque, avant demain la Lettonie, Malte et la Slovaquie.
Elle n'a pas réussi à sortir de l'Europe, alors elle démissionne.
Theresa May quittera ses fonctions de chef de file du Parti conservateur dans deux semaines, le 7 juin, et son départ enclenchera le processus pour lui trouver un successeur qui sera connu avant la fin juillet, début des vacances parlementaires. Regardons ce qui peut se passer maintenant, au lieu de revenir sur les presque trois ans qui se sont écoulés depuis le oui des Britanniques au Brexit et qui lui ont fait couler les larmes. Tout à l'heure, presque à Theresa May. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Les candidats au poste de Premier ministre sont déjà connus et leur sortie de l'Union à eux est plus hard. Hein.
Le premier d'entre eux, oui, c'est Boris Johnson, grand favori parmi les candidats à la succession. Il est largement en tête chez les bookmakers et dans les sondages, l'ancien maire de Londres, effectivement, le dit clairement, 31 octobre, avec ou sans accord, nous sortirons de l'Union européenne. À côté de lui, Dominic Raab, ancien ministre du Brexit, est tout aussi catégorique. Il a quitté son poste l'an dernier pour protester contre le projet d'accord négocié par Theresa May avec Bruxelles. Les autres, ceux qu'on connaît pour l'instant, comme Jeremy Hunt, Michael Gove, actuel ministre du gouvernement, sont un peu plus modérés. Alors il y aura sans doute dans les semaines qui viennent des candidats europhiles, même des candidats anti-Brexit, mais ils ont peu de chances d'être vraiment entendus, parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que la démission de Theresa May ne redistribue pas les cartes. Les conservateurs n'ont toujours pas la majorité absolue au Parlement. Ils risquent donc de se ranger derrière l'avis du plus grand nombre, derrière l'avis des militants, pour faire bloc, pour éviter les querelles et pour éviter, surtout, d'ouvrir la porte aux travaillistes qui réclament des élections législatives. Législative anticipée.
Du côté des réactions, merci Antoine. Petit tour des capitales. Paris salue le travail courageux de Theresa May et appelle à une clarification rapide sur le Brexit. Berlin respecte sa décision et laisse la suite aux évolutions de la politique intérieure britannique.
La maison mère de Casino en procédure de sauvegarde.
Rallye accuse une dette de près de 3 milliards d'euros. Alors les 220 000 salariés des enseignes du groupe s'interrogent et s'inquiètent. Ils ne veulent pas payer pour les acquisitions à l'étranger, comme l'explique Guillaume Touminet, secrétaire CFDT. Service. Suisse. Au téléphone avec Faustine Calmel.
En 20 ans, il y a eu énormément d'endettement pour effectivement en faire cette croissance externe par des acquisitions à des prix relativement élevés à l'étranger, notamment au Brésil. Ça s'est traduit effectivement par des investissements très forts en France avec le rachat de Monoprix, de Franprix, d'Orprice, de Cdiscount. Il y a un vrai intérêt commercial à avoir toutes ces structures quand elles sont combinées. Le problème, c'est que les anciennes historiques de casinos ont pâti de cet investissement pendant 20 ans. On a un parc de magasins, du coup, qui est vieillissant. Et nous, on a du mal à comprendre que l'on continue effectivement à vouloir absolument garder des structures, notamment au Brésil. Ne vaudrait-il mieux pas, effectivement, pour pouvoir renforcer la structure financière en France, recentrer le groupe sur son périmètre historique qui est le marché français? On a peur que les salariés français soient sacrifiés pour que le groupe puisse garder sa filiale au Brésil.
En bref, à l'étranger, le Kenya refuse de faire un grand pas en avant. La justice refuse d'abroger les lois qui criminalisent l'homosexualité parce que cela ouvrirait la voie au mariage gay. Ces lois datent de l'époque coloniale.
J-2 avant le début de Roland-Garros.
Oui, les chaussettes oranges à cause de la terre battue, les tics de Rafael Nadal avant chaque service. L'Espagnol, tenant du titre, vise un 12e trophée Porte d'Auteuil où il vit, dit-il, ses plus grandes émotions de tennis.
Pour moi, c'est un lieu exceptionnel, très spécial. Ici, c'est le lieu le plus important de ma carrière. Les meilleurs moments que j'ai connus, c'était ici. Et je pense que c'est impossible à décrire, à expliquer tout ce que j'ai pu ressentir ici. À chaque fois que je viens ici, je viens avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai des très bons souvenirs, je connais des gens ici, je peux les revoir, c'est un lieu exceptionnel. Le fait d'être ici, de participer à ce tournoi, c'est un rêve énorme, c'est une réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Chaque année, pour moi, c'est quelque chose de renouvelé, c'est quelque chose de nouveau, c'est un vrai rêve personnel.
Rafael Nadal au micro de Nicolas Teillard. Roland-Garros va commencer, Cannes se termine. C'est le mois de mai en France. Le film d'Abdelatif Kechiche, projeté hier, hérisse encore les poils sur la croisette. Alors que le nouveau film du Palestinien Elia Souleiman est en compétition aujourd'hui. It Must Be Heaven. Bonsoir Eva Bétan.
Bonsoir.
C'est l'histoire de son exil, c'est ça?
Oui, mais c'est fait avec cette manière très 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 particulière. Il joue donc dans ce film, il a l'allure, vous savez, d'un Jean-Luc Godard qui serait peint sans rire. Donc il a une silhouette de personnage de BD, barbe grise, grosse lunette, chapeau. Le film est construit en sagnette et donc il est le film conducteur. Il est le témoin muet de ce qu'il y a autour de lui. Pour autant, le film n'est pas muet, les autres parlent. On va être d'abord chez lui à Nazareth, mais qu'est-ce qu'il nous montre de Nazareth? Il nous montre par exemple que son voisin considère son citronnier à lui comme lui appartenant et vient le tailler. On va se retrouver à Paris, parfois l'humour va se faire noir, on voit le côté dérisoire de l'aide qui est apportée au SDF. Donc c'est un film, c'est par petits bouts qu'il parle de lui comme un étranger dans le monde. Et c'est pas du gros rire, c'est du rire subtil, et c'est un film donc palestinien drôle. Et certains, ils semblent penser que les deux notions sont antinomiques, et il met ça dans son film, et c'est une scène absolument brillante. C'est inspiré de la réalité, un éventuel producteur lui dit, mais votre film, il est pas assez palestinien, Elia Souleiman.
Quand ils ont vu qu'il y avait de l'humour dans mon script, ils m'ont dit « ça ne peut pas être un script palestinien, il n'y a pas de soldats, pas de brutalité, il y a de l'humour ». Ils ont des idées préconçues sur la Palestine, ils ne voient que le côté tragique, ça fait partie d'un post-colonialisme de gauche. Les producteurs de gauche pensent qu'ils savent mieux que nous comment parler de la Palestine.
Et c'est sans changer de ton, toujours avec de l'humour, toujours avec le sens de l'absurde, dans quelques scènes formidables, qu'il dit son pessimisme quant à l'éventualité d'une paix, et qu'il dit aussi ce que c'est qu'être un Palestinien sans pays. Voilà, ce qui prouve qu'un film peut être léger et profond et réussi.
On vous a bien entendu, merci Eva Bétan. Palmarès demain soir, bon courage Eva, et on vous retrouvera évidemment sur Interémission spéciale demain samedi. Un détour au théâtre pour finir, avec le retour sur scène d'Isabelle Huppert à l'espace Cardin du Théâtre de la Ville à Paris. Elle retrouve le metteur en scène américain Bob Wilson pour une évocation de la vie de la reine Marie Stuart. Huppert seule pendant une heure et demie dans un monologue qui lui donne du fil à retordre, Stéphane Capron.
Isabelle Huppert a déjà rencontré Marie Stuart sur sa route. C'était dans la pièce de Schiller au Royal National Théâtre de Londres en 96. Pas forcément un bon souvenir pour la comédienne, car elle avait été malmenée par la critique anglaise qui lui avait fait des reproches sur son accent. Ici, elle joue en français la pièce de Daryl Pickney et se prend parfois fois les pieds dans un texte d'une densité inouïe. Mais un peu à l'image de cette reine qu'elle incarne, Isabelle Huppert s'agrippe aux branches avec ténacité pour raconter le destin de Marie Stuart.
Je mesure à quel point Bob Wilson nous donne accès à son courage, à sa légèreté. Il nous fait rencontrer tous les mythes qu'on connaît de Marie Stuart, son côté volage, cette vie triste aussi qu'elle a eue, le fait qu'elle était reine de France, qu'on a parfois tendance à oublier. Enfin, tout ça, voilà, nous est transmis dans le spectacle de Bob, tout en restant là. L'imagerie qu'on connaît est tout à fait unique de Bob Wilson.
Le metteur en scène américain ne ménage pas la comédienne. Il se plaît d'ailleurs à dire qu'il n'y a pas de star comme elle aux États-Unis. Il la transforme en poupée désarticulée. Isabelle Huppert marche à toute vitesse sur le plateau d'avant en arrière, de gauche à droite, pendant de longues minutes, sans sourciller, mais avec classe et au rythme de la musique entêtante de Ludovico Einaudi qui accompagne pendant tout le spectacle l'évocation de la vie de cette reine au destin tragique.
Isabelle Huppert dans Marie Said What She Said, mise en scène de Bob Wilson, c'est à l'espace Cardin du Théâtre de la Ville à Paris, c'est jusqu'au 6 juillet et c'est un spectacle inter. On va faire un dernier détour par Lyon, Claire, pour terminer cette édition où il y a moins de 2 heures, une explosion s'est produite dans le centre-ville. Le maire du 2e arrondissement de la ville, Denis Broliquier, vient de voir les images de vidéosurveillance. Écoutez.
Un homme est passé en vélo un peu avant 17h30, il a déposé un engin explosif, il a été filmé par la vidéosurveillance de la ville de Lyon. 2 minutes après cet engin a explosé, il était de faible intensité puisqu'il n'a pas détruit la banque réfrigérée contre laquelle il était placé. En revanche, les vitres de cette banque réfrigérée ont blessé superficiellement 8 personnes dans un rayon de quelques mètres. J'étais prévenu, donc je suis arrivé quelques minutes seulement plus tard, et j'ai vu que cette banque réfrigérée, certes, n'avait plus de place, mais n'était que très peu abîmée. C'est là où on s'aperçoit que c'était plutôt un engin, alors certainement destiné à blesser, peut-être même à tuer, mais c'était pas une bombe destinée à tuer plusieurs dizaines de personnes, ça c'est évident.
Denis Broliquier, maire du 2e arrondissement de Lyon. Le dernier bilan est désormais de 11 blessés. L'homme décrit par ce monsieur sur cette vidéo est désormais recherché. Et la section antiterroriste du parquet de Paris est saisie. Le parquet antiterroriste se rend d'ailleurs sur les lieux à Lyon.
Voilà, le procureur de Paris, Rémy Hetz, qui se rend sur place. Merci beaucoup pour ce journal, Sébastien Paour. Dans un instant, le temps.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Bonsoir Jean-Pierre Hameau.
Bonsoir Claire.
Les cumuls de pluie deviennent importants au pied des Pyrénées.
Oui, d'ailleurs le département de l'Ariège est en vigilance orange pluie inondation jusqu'à demain après-midi. On prévoit des cumuls sur 48 heures d'environ 80 à 120 mm de pluie. Et attention, nous observons cette fin d'après-midi des orages assez forts entre la Lozère, le Cantal et le Limousin. Là aussi, les cumuls de pluie seront localement importants.
Et demain, ça ne devrait pas s'arranger.
Non, il faudrait être patient. Les pluies orageuses sont encore au programme de la journée, des Pyrénées au Massif central, de la région Rhône-Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté et jusque vers l'Alsace. Prévoyez un ciel nuageux autour de la Méditerranée, mais aussi de la Picardie à la Lorraine en passant par l'Île-de-France et la région Champagne-Ardenne. Puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, l'ensoleillement sera plus généreux en allant vers les côtes de l'Atlantique et de la Manche. Côté température, les maximales demain après-midi seront homogènes et conformes aux moyennes de saison, comprises entre 19 et 24 degrés.